Alors, ça va s'afficher, voilà. Donc aujourd'hui, nous continuons la découverte de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et donc, si vous vous rappelez, les deux fois précédentes, on avait parlé du chapitre 1. Et là, je vous invite à vous lever. Je sais, c'est pas pour Danette, hein. Mais c'est pour faire un petit bond. Faites un petit bond avec moi. Parce que nous allons passer au chapitre 3. Voilà, vous pouvez vous rasseoir, merci. Alors, le contenu du chapitre 2, ne vous inquiétez pas, on le verra dans les prochaines semaines. Bon, je fais le pitre, en fait, c'est parce que ce que je vais vous dire, ça m'a profondément touché, et j'espère pouvoir vous le restituer pleinement. Et donc, dans le passage que nous allons voir ce matin, il s'agit de la deuxième prière que Paul a rédigé dans sa lettre. Alors, on va la lire et je vais vous poser une question, une petite devinette. Et on verra la réponse à la fin de la lecture. Vous allez voir que dans cette prière, il y a un mot qui est répété. Et donc, la devinette, c'est quel est ce mot et combien de fois est-il répété? Alors, je vous propose qu'on lise ensemble. Donc, c'est Éphésiens, chapitre 3, verset 14 jusqu'à 21, 7 versets. Et nous allons le lire dans la version Nouvelle Français Courant. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que, selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. Et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Amen. Alors, je pense que vous avez trouvé la solution de la devinette. Le mot répété, c'est le mot amour que l'on trouve trois fois de suite dans les versets 17, 18 et 19. Et à votre avis, pourquoi Paul insiste-t-il sur ce mot? Et c'est le sens profond de sa prière. Il demande que nous soyons bouleversés par l'amour de Dieu, l'amour que Jésus a pour nous. Alors, dans cette prière, Paul demande trois expériences spirituelles. Que l'Esprit vienne fortifier notre vie intérieure, que le Christ habite dans nos cœurs et que nous connaissions l'amour de Dieu. Alors nous allons observer ces trois demandes à la loupe dans quelques instants. Mais pourquoi Paul prie-t-il dans ce sens? Parce que ce sont des expériences déjà vécues par les croyants. Et dans le début de la lettre, on l'a lu hein, au tout début, dans ce qu'on va voir dans le chapitre 2 les prochains dimanches, il reparle de tout ça. Alors pourquoi Paul prie-t-il à nouveau pour cela? Eh bien parce qu'on en a besoin. Pourquoi Paul le demande encore? Parce que nous en avons vraiment besoin. Alors, ces expériences, l'Esprit Saint est déjà venu donner la puissance de résurrection pour accomplir la nouvelle naissance. Le croyant a déjà invité Jésus à venir dans son cœur. Et nous avons compris, nous avons reçu l'amour de Jésus qui s'est livré à la mort sur la croix pour nous. Nous avons reçu le pardon des péchés et nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc Paul insiste dans ses prières pour que ces trois expériences, toujours plus intensément, toujours plus profondément, parce que ce sont des expériences de vie qui sont transformantes. Et Dieu a la puissance de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Et nous pourrions aussi le comprendre la manière dont j'ai écrit là en orange. Dieu, dans son riche amour, a la générosité de donner au-delà de tout ce que nous demandons ou même imaginons. Alors je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, toi qui nous as connus et qui nous as aimés avant la fondation du monde, toi qui as envoyé Jésus, ton Fils, pour nous sauver, toi qui nous as donné ta présence dans nos vies par ton esprit. Nous te remercions ce matin pour cette prière de Paul qui nous entraîne à décider d'aller plus loin dans ces trois expériences spirituelles. Nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels par ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, afin que nous puissions désirer, nous aussi, ces trois expériences spirituelles et les vivre. Amen. Alors, comme je disais, ces trois expériences que chaque chrétien a déjà vécues. Alors, peut-être si vous n'êtes pas chrétien, parmi nous ce matin, vous n'avez pas vécu ça. Mais tous ceux qui sont chrétiens l'ont déjà vécu. Nous en avons besoin. Paul affirme indirectement que notre plus grand besoin en tant que croyants unis à Christ, ce n'est pas la prospérité financière, ce n'est pas non plus la bonne marche de notre carrière ou de nos études, même si Dieu ne méprise pas ces choses. Ce n'est pas la santé non plus, même si c'est tellement important. Non, notre plus grand besoin, c'est de vivre une expérience renouvelée et approfondie de l'amour du Christ. Ce que Paul sous-entend, et reconnaissons qu'il a raison, c'est qu'il existe souvent un décalage entre la réalité de ce qui nous est offert en Christ et puis notre expérience pratique de cette réalité. Paul veut que notre vie réelle soit inondée de l'amour de Dieu, qu'elle soit enrichie par la présence de Jésus dans nos cœurs et par l'Esprit de Dieu, que cet Esprit, l'Esprit de vie, vienne donner la force et la puissance dont nous avons terriblement besoin. Alors juste une remarque avant de regarder à la loupe chacune des demandes de Paul. Je voudrais faire remarquer que la prière de Paul à Dieu le Père, comme la précédente, et comme nous allons le voir tout au long de l'Épître, cette prière, elle mentionne à la fois l'Esprit Saint et Jésus le Christ, et elle est adressée à Dieu le Père. Et là encore, cette prière est modelée dans la révélation du Dieu unique en trois personnes. Et je ne sais pas si cette réalité spirituelle ne vous fait pas vibrer au-dedans de vous. Alors observons comment Paul prie maintenant. C'est le verset 14, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépendent toutes les familles, dans les cieux et sur la terre. Paul se met à genoux pour prier. Petite question, est-ce que c'est une position que nous utilisons encore pour prier? Alors c'est pas forcément confortable, n'est-ce pas? Est-ce que nous pratiquons cette manière de prier lorsque, selon l'invitation de Jésus, nous allons dans notre chambre et que nous fermons la porte pour prier dans le secret de nos vies? Qu'est-ce que cela indique sur la manière de prier de Paul? Eh bien, on pourrait dire qu'il demande ces choses avec humilité. Il est à genoux devant la majesté de Dieu. Mais aussi, il les demande avec ferveur. Il ne demande pas ces choses à la légère. Paul prie Dieu le Père. Et il dit que lui, Dieu le Père, c'est de lui que dépendent toute famille dans les cieux et sur la terre. Alors dans le texte original, il y a une sorte de jeu de mots entre le mot « père » qui se dit « pater » et puis le mot « famille » qui se dit « patria » qui a donné la patrie en français. Et la paternité de Dieu s'étend à toute famille qui existe. Nous ne prions pas un Dieu qui n'aimerait que quelques-uns, qui serait restreint ou qui serait un juge redoutable. Non, nous prions le Dieu de toute famille de la terre et des cieux, celui qui accorde son amour et sa tendresse à toute sa création. Alors moi, je voudrais aussi citer cette résonance avec le texte de Jérémie 31, les versets 1 à 3. « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Vous voyez la similitude avec ces deux passages. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le passage de Jérémie, mais je peux m'empêcher de le citer parce que Dieu a tellement bouleversé ma vie avec ce passage. Alors, si ça vous intéresse de savoir pourquoi, mangeons ensemble tout à l'heure ou buvons un café, puis je vous l'expliquerai. Paul prie le Père. Ça nous a été rappelé ce matin. Nos pères terrestres, ils n'ont pas toujours été à la hauteur. Et ça peut nous gâcher notre relation avec le Père céleste. Le Seigneur nous a invités ce matin à ouvrir nos cœurs pour recevoir la guérison sur cette blessure. Alors continuons avec la première expérience spirituelle que Paul demande. Je lui demande, c'est le verset 16, que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit. Alors, pour tous ceux qui sont chrétiens parmi nous ce matin, nous l'avons déjà vu dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit depuis notre nouvelle naissance, depuis que nous sommes convertis, et Dieu nous a marqués comme d'un sceau, comme d'une empreinte indélébile par son esprit. Et c'est ce même esprit qui peut maintenant nous fortifier avec puissance dans notre être intérieur. Alors, est-ce que vous avez expérimenté la puissance de Dieu dans votre être intérieur? Comment se manifeste-t-elle et à quoi sert-elle? Dans la première prière de Paul qu'on a vue la semaine dernière, Paul indique que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, est comparable. C'est la même puissance que celle qui a donné à nouveau la vie au cadavre mort de Jésus. Et cette puissance en nous, à quoi sert-elle? Donc elle sert à Dieu pour nous faire revivre spirituellement, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Une autre manière de le dire que Paul a dans Colossiens 1,13, c'est de dire que notre vie a été arrachée de l'autorité du mal et des ténèbres et que la puissance de Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, de Jésus. Mais cette puissance agissante en nous, de quoi s'agit-il? Alors, je vais jeter un pavé dans la mare. J'ai bien peur que la science-fiction, les films fantastiques nous induisent en erreur. Certains chrétiens, et peut-être est-ce votre cas, prétendent que la puissance du Saint-Esprit est comme une sorte de super pouvoir accordé aux croyants qui lui permettrait de faire je ne sais quoi. Le croyant qui a reçu la puissance de l'Esprit pourrait faire des miracles, guérir les malades, je ne sais pas quoi d'autre, convertir les foules, pourrait citer tellement de choses, tout ça par ses propres forces, par sa foi, par sa propre qualité. Et désolé, c'est une mauvaise nouvelle, ben c'est faux, c'est pas ça. La puissance du Saint-Esprit, non seulement elle n'agit pas comme ça dans notre vie, mais en plus, elle ne nous est pas donnée pour cela. Alors, une petite précision, si ce que je viens de dire vous fait vous agiter sur votre chaise, vous me connaissez. Vous savez que moi, Loïc, j'ai expérimenté les miracles et la puissance de Dieu dans ma vie personnellement. Et aussi, Dieu se sert parfois de moi pour cela. Oui, je crois, je l'ai vu, je l'ai touché de près, que la puissance de Dieu peut faire des miracles, qu'elle peut guérir, qu'elle peut convertir des foules. Mais ce n'est pas moi, le chrétien, qui ai ce pouvoir. Je n'ai pas de super pouvoir. C'est Dieu qui reste maître, qui reste en contrôle de tout ce qu'il fait, même au travers de ses enfants. Alors j'ai juste cité un verset, 1 Corinthiens 12, 11. Après avoir cité toutes les manifestations de l'Esprit, y compris les manifestations miraculeuses, Paul rappelle que c'est l'Esprit qui opère toutes choses. C'est lui qui fait tout, c'est pas nous. Alors, à quoi sert la puissance de l'Esprit en nous ? Si ça vous intéresse de creuser la question, je ne vais pas le faire ce matin, mais relisez le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. À quoi sert la puissance de l'Esprit-Saint en nous ? La réponse, elle est dans la question. On parle de l'Esprit-Saint. Qu'apporte l'Esprit-Saint dans notre vie ? Il est l'Esprit et il est saint. L'Esprit-Saint apporte, en tout cas c'est son désir, il veut apporter la sainteté dans notre vie. Je rajouterai, il veut apporter la sainteté dans notre vie qui en a tellement besoin. N'est-ce pas ? Rappelez-vous, c'est la première chose que Paul écrit dans sa lettre que nous avons lue. La première bénédiction spirituelle, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Pourquoi ? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Saints, irréprochables. Je vais vous faire une confession, on est entre nous, ne le répétez pas dehors. Ben, j'y suis pas encore, moi. J'en suis loin. Ça fait presque 40 ans que je suis Jésus. Et je fais le constat que je n'ai ni la capacité, ni la force intérieure pour me détacher de mes péchés. Et pourtant, si vous me connaissiez avant, et si vous comparez avec aujourd'hui, vous voyez, waouh, qu'est-ce que le Seigneur a bien agi. C'est uniquement par la puissance de Dieu, de l'Esprit-Saint qui agit en moi. Et il reste du boulot, les amis. Mais je garde espoir. Et j'ai confiance que cette promesse de Dieu s'accomplit jour après jour dans ma vie. Un jour, je serai, nous serons saints et irrépréhensibles. C'est Dieu qui l'a promis et c'est Dieu qui le concrétise dans ma vie par l'Esprit-Saint qui vient fortifier mon être intérieur. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'être fortifié chaque jour et même plusieurs fois par jour. Alors je parle de moi, excusez-moi, mais est-ce que vous avez le même besoin ? Êtes-vous déjà arrivé ? Êtes-vous déjà saint et irréprochable ? Sinon, comme moi, vous n'auriez pas besoin d'être à nouveau fortifié par l'Esprit-Saint. Ce matin, ça nous a été rappelé aussi. Il y a plusieurs personnes qui sont découragées parce qu'ils retombent régulièrement dans leur péché et que Dieu veut leur faire grâce. Et cette grâce, c'est la puissance de l'Esprit-Saint qui vient te transformer de l'intérieur. Alors passons à la seconde expérience que Paul demande, le verset 17. « Que le Christ habite dans vos cœurs. » Alors là encore, c'est une expérience que chaque chrétien a certainement vécue. Paul demande à nouveau qu'elle soit vécue dans la réalité avec davantage de profondeur. Souvent, en parlant de la conversion, nous disons que Christ est venu habiter dans nos vies, dans nos cœurs. Mais ici, c'est dans un autre sens que l'expression est utilisée. Il est question d'une installation plus complète dans notre cœur. Un peu comme quand on aménage un nouvel appartement à notre goût, que Christ occupe et organise progressivement toutes les pièces de notre cœur à son goût, qu'il règne en nous. Jésus lui-même insiste sur l'importance de notre cœur. Dans la Bible, le mot « cœur » n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le cœur, c'est l'endroit de notre centre d'affection, le siège de notre amour, de notre amitié, là où nous développons un petit peu les sentiments parfois mielleux, doucereux, de bisounours rose ou bleu pâle. Non, c'est pas ça dans la Bible. Dans la Bible, le cœur, c'est le centre profond de notre être. C'est de là que sortent nos décisions, les sources de la vie, comme dit les Proverbes. Et Jésus, lui, il dit très précisément qu'est-ce qui sort de notre cœur. Alors c'est dans Matthieu 15, verset 19, je vais vous lire ça. C'est de notre cœur, de tout notre être profond du dedans de nous que sortent toutes les choses mauvaises et perverses. L'inconduite sexuelle, les adultères, l'attrait pour le porno, la cupidité, les vols, l'amour de l'argent et des biens, les méchancetés, la fraude, la débauche, les envies, les calomnies, les médisances, l'orgueil et la démesure, etc. C'est Jésus qui le dit, hein ? Ça, ça sort de notre cœur. Et c'est précisément l'endroit où Jésus veut venir habiter en nous. Alors, ça peut être dérangeant. Parce qu'en général, lorsqu'on invite des gens chez nous, on les amène au salon qui est bien rangé, où il y a des fleurs sur la table. On ne vient pas leur faire visiter l'arrière-cuisine ou le dépotoir, ou etc. Et c'est ce que Jésus veut venir faire. Il veut visiter les pièces sombres de la cave où nous avons laissé pourrir nos vrais problèmes. Il veut venir ranger et trier le grenier où s'accumulent les souvenirs et les blessures de nos vies. Il veut même venir vider les placards remplis de cadavres des gens que nous avons tués. Il veut venir vider les poubelles qui pourrissent un petit peu partout.
Moi, j'imagine Jésus qui arrive comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire ? Ouvrons notre maison à Christ, ouvrons notre vie tout entière. Pas simplement ce qui est beau, le bon chrétien, machin. Vous comprenez bien que l'Esprit et Jésus, ils veulent faire le même travail, les mêmes actions, nous rendre saints et irréprochables, nous purifier de toute iniquité, de tout mal. À d'autres endroits dans la Bible, nous lisons que le projet de Dieu le Père, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Le moyen que Jésus a trouvé, que Dieu a trouvé, c'est de venir habiter en nous. Alors on cite souvent ce passage de l'Apocalypse, Jésus qui frappe à la porte pour ouvrir. Hein, et puis c'est assez super parce que celui qui ouvre, Jésus entre et ils font un festin ensemble. C'est une belle invitation. Jésus propose de vivre un festin avec toi pendant que le Saint-Esprit va faire le nettoyage. Mais cette image, elle a quelque chose de terrible. C'est que quand Jésus frappe à la porte, il est encore dehors. Alors est-ce que tu vas le laisser rentrer ? Une question qui s'est imposée à moi pendant que je préparais tout ça. Est-ce que je vais continuer à avoir le même comportement de vie maintenant que je vais avoir davantage conscience que Jésus habite en moi ? Alors, la troisième demande de Paul est de faire à nouveau l'expérience de l'amour de Jésus. Nous savons bien que Christ nous a aimés jusqu'à s'être donné lui-même pour nous à la croix. Mais nous avons besoin, par des expériences vécues, d'être plongés à nouveau, et à nouveau, et à nouveau dans son amour. Alors, une petite question. Est-ce que ce matin, toi qui es parmi nous, tu as déjà reçu l'amour de Dieu pour toi ? Ça nous a été rappelé encore. Dieu te dit, je te connais, je t'appelle, viens à moi. Aujourd'hui, si tu ne l'as jamais fait, je t'invite à donner ta vie à Dieu, à Jésus, à recevoir le pardon. Faire à nouveau l'expérience de l'amour de Jésus. Et Paul utilise deux comparaisons, deux images, enracinées, solidement établies. Les racines parlent de la plante. Prenons un arbre. Imaginez les racines qui s'enfoncent profondément dans l'amour. C'est un peu comme dans Jérémie 17 ou dans le psaume 1, comme un arbre planté près des eaux de l'amour de Jésus. Les racines puisent de l'eau, de l'amour continuellement. L'autre image que Paul utilise, c'est celle de l'architecte qui construit les fondations d'une maison. La maison est construite solidement et les fondations sont solidement posées dans l'amour. Et la fondation de notre relation avec Dieu, c'est l'amour que Dieu nous porte. Dieu est amour, déclare Jean, l'apôtre Jean. Et Dieu nous a aimés le premier, répète-t-il à plusieurs reprises. L'amour de Jésus s'est manifesté durant sa vie sur la terre, jusqu'à mourir et obtenir le pardon des péchés et la réconciliation. Et l'amour de Jésus, désormais assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, continue à se manifester. Jésus intercède pour nous à chaque instant. Et Dieu nous a aussi donné le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans nos vies. Ça, c'est Romains 5. L'amour de Christ, c'est à la fois la terre dans laquelle les croyants sont enracinés et le fondement sur lequel leur vie est construite. Alors on voit que dans ce texte, on pourrait dire que l'amour de Christ n'a aucune limite, ni dans sa largeur, ni dans sa longueur, ni dans sa hauteur, ni dans sa profondeur. Et nous sommes appelés à découvrir toutes les dimensions de l'amour de Jésus. Et ça nous est possible, avec le secours de Dieu, de le saisir encore mieux. Nous sommes invités à le vivre. Le psaume 34, il dit de goûter. Ce n'est pas uniquement de le savoir, c'est de le goûter, de le manger, de l'avaler, d'en bénéficier, découvrir toutes ses dimensions. Est-ce que tu te sens aimé par Dieu? Est-ce que tu as goûté cet amour récemment? Et Paul nous donne une indication, ça ne se vit pas seul, mais ça se vit avec qui? Avec tous ceux qui appartiennent à Dieu. Le meilleur moyen de se sentir aimé par Dieu, c'est de s'ouvrir à l'amour des frères et des sœurs en Christ. Ne reste pas seul. Ouvre-toi à l'amour de Jésus qui est dans ton frère, dans ta sœur. Alors, un des moyens pour vivre cet amour, c'est bien sûr les groupes de maison. Est-ce que tu en fais partie? Sinon, je te donne rendez-vous tout à l'heure au stand qu'on aura avec David. Alors, on arrive à la fin. L'objectif de la prière de Paul est assez faramineux. Il veut que nous soyons remplis à tel point de l'amour de Dieu que nous vivions toute la plénitude de Dieu. As-tu déjà vécu l'expérience de la plénitude de Dieu? Alors, dans notre société, ce qui a le vent en poupe, ce sont les spiritualités du vide. Il faut faire le vide en soi. Il faut vider son esprit par du sport, de la méditation, du yoga, des activités manuelles, la pratique d'un art, du jardinage, c'est quoi d'autre? Du moment qu'on puisse vider son esprit. Mais la nature a horreur du vide. Si vous faites le vide, qu'est-ce qui va venir remplir? Alors que Dieu, lui, nous offre tout autre chose. Il nous offre la spiritualité du plein. Il nous offre la spiritualité de la plénitude. Et ce n'est pas réservé à des grands maîtres spirituels, à des moines qui vivraient dans des endroits reculés, je ne sais pas où, ni à des ascètes ou à des gens super spéciaux, non. Cela est réservé à ses enfants, à ses fils, ses filles, aux enfants du Père. Vous savez, ce Père de qui viennent toutes les familles de la terre et des cieux. Il nous offre la plénitude. Il nous offre d'être comblés de toute sa plénitude. As-tu déjà vécu la plénitude de Dieu? Et si nous la demandions, comme Paul nous y invite ce matin? Alors, je voudrais faire aussi une petite remarque. C'est la deuxième fois que Paul parle de la plénitude de Dieu dans cette lettre. Dans la première prière, il avait terminé en indiquant que, c'est dans chapitre 1, verset 23, que le Christ est la plénitude de Dieu répandue dans toute l'Église et dans sa création. Et ici, Paul demande que ses lecteurs, c'est-à-dire nous, reçoivent jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et un peu plus loin, on le verra dans la suite, Paul parlera de la plénitude de Christ, ça c'est dans chapitre 4, verset 13, la plénitude de Christ qui grandit progressivement en nous, en tant qu'individu, en tant que collectif, jusqu'à ce que nous soyons parvenus jusqu'à la stature parfaite de Christ, la plénitude de Christ. Et puis vous savez aussi que Paul nous encouragera à être remplis de la plénitude de l'Esprit, ça c'est chapitre 5, verset 18, « Soyez remplis par l'Esprit ». Cette plénitude à laquelle nous sommes invités à nous ouvrir, c'est celle de Dieu, Père, Fils et Esprit, le Dieu unique qui est trois et qui s'offre à nous en totalité. Seul Dieu peut le faire, n'est-ce pas? Et c'est son intention, car son immense amour, toute sa bonté, toute sa générosité se manifeste dans le fait qu'il a tout pouvoir pour nous faire vivre ces expériences spirituelles, pour notre bien, pour notre croissance, pour notre bonheur, au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Alors comment demander ? Demandons en nous attendant à plus que ce que nous demandons. C'est un des versets les plus motivants de toute la Bible à propos de la prière. Dieu n'est pas limité par notre petite prière, notre faible prière. Il a envie non seulement de répondre à toutes nos requêtes, mais aussi de nous accorder bien plus, tellement au-delà de ce que nous imaginons. Et Paul est tellement émerveillé par l'immensité de l'amour de Dieu qu'il termine par ces mots de louange pour rendre honneur et gloire à notre Dieu et à Jésus pour tous les bienfaits qu'il donne à son Église, à chaque croyant, à chaque communauté. Qu'il soit loué et glorifié dans tous les temps et pour toujours. Amen. Prions ensemble. Père céleste, nous nous inclinons devant toi. Je ne vais pas dire nous nous mettons à genoux, parce que je vais rester debout, mais nous nous inclinons devant toi. Accorde-nous à la mesure de ta richesse, de ta générosité glorieuse, d'être fortifié avec puissance par ton esprit dans notre être intérieur. Apporte-nous ta sainteté, Saint-Esprit. Viens nous donner la puissance dont nous manquons pour que nous soyons libérés de nos péchés, de tout ce qui nous entrave au quotidien. Christ, habite dans notre cœur par la foi. Nous venons à toi, Jésus, toi qui nous as tant aimés et t'es donné pour nous. Viens habiter au plus profond de nos vies. Viens prendre possession de toutes les pièces de notre vie comme d'une maison où tu seras à la fois le maître et l'invité d'honneur. Fais-nous comprendre avec tous les chrétiens combien l'amour de Christ a des dimensions immenses, larges, longs, élevés, profonds. Fais-nous connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Remplis-nous de toute la plénitude de Dieu. S'il te plaît, accomplis bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même imaginons. Et nous te disons, à toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus, pour toujours. Amen.